Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est le 9 décembre et je vais vous débriefer rapidement d'une conférence à laquelle j'étais aujourd'hui, qui est une conférence qui est sur deux jours, dans laquelle j'interviens demain. Mais voilà, je voulais un peu faire une petite réaction à chaud. J'ai un peu de retard dans les choses dont j'ai envie de vous parler. J'ai toute une liste qui s'est accumulée de choses un peu news. Bon, c'est pas grave, on va laisser passer un peu peut-être quelques news. Je reviendrai dessus. Mais bon, c'est peut-être dans un autre épisode. En tout cas, il se passe des choses intéressantes en cette fin d'année dans le monde de l'IA, des actualités, on va dire. Voilà. Mais bon, je vais vous parler plutôt de cette conférence à laquelle j'étais pour l'instant. Et puis on verra, j'ai publié un article aujourd'hui aussi sur LinkedIn que je vous invite à aller voir un petit peu sur le vibe coding. Donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps ces derniers temps vraiment à réfléchir à tous ces sujets de vibe coding. D'ailleurs, je pense que je vais publier un peu, je vais essayer de proposer plus de ces réflexions par écrit. Je pense que j'ai déjà dû dire ça au moins une fois dans l'année, mais c'est pas grave. Mais voilà, je le fais un peu sur LinkedIn. Là, j'ai fait un vrai article sur LinkedIn et j'ai envie de mettre tout ça dans un blog et puis dans la newsletter, enfin bref. Mais bon, ça c'est un autre sujet pour 2026. Globalement, j'ai beaucoup de sujets de création de contenu pour 2026. Mais comme j'ai les idées plus claires, maintenant ça va. Mais bon, par défaut, la manière un peu la plus simple de communiquer, c'est ces petites notes vocales. Et donc, j'ai envie de vous débriefer rapidement de la conférence API Days. Alors, en fait, ça s'appelle API Days, c'est le nom un peu historique, mais en fait, maintenant, c'est une congrégation de conférences. Et donc, celle où j'ai principalement assisté aujourd'hui, c'était Generation AI. Bon, c'est que j'ai vu que des confs sur l'IA, mais en fait, ils mélangent plusieurs confs, c'est un peu le bordel. Très franchement, je vais pas trop dire de mal, parce que j'interviens demain là-bas et qu'ils m'ont invité et que j'apprécie ça. Néanmoins, c'est quand même pas ma conférence préférée, mais c'est pas non plus la pire des conférences. C'est pour vous donner un petit peu l'ambiance, pour ceux qui me suivent depuis un moment, je vous avais parlé, je crois, de conférence à laquelle j'étais allé en cours d'année, là, qui s'appelle Raise AI, qui était, je crois, en septembre. Et voilà, c'est en fait dans le monde des conférences, je commence à avoir là cette année, j'ai quand même fait pas mal de conférences, je suis intervenu dans des conférences, j'ai assisté à des conférences, et il y a vraiment pour moi deux catégories, et c'est très très clair. Et quelque part, bon, API Days se situe un peu au milieu, mais il y a les conférences commerciales, qui sont d'ailleurs pas vraiment forcément des conférences, mais plutôt des salons, on va dire, où il y a des conférences, mais où la plupart des intervenants sont en général des sponsors. C'était le cas de Raise AI, c'était le cas de FD Days, de France Digital. Bon, désolé, hein, je name drop un peu comme ça les noms, mais voilà, c'est ce genre de grosses conférences avec des stands. Et API Days est un peu comme ça, c'est-à-dire je suis arrivé, donc il y a tout un programme de conférences, je reviendrai là-dessus évidemment, parce que c'est moi ce qui m'intéresse le plus, mais on arrive et il y a un village des exposants où il n'y avait que des outils professionnels. Franchement, je ne connaissais quasiment aucun des noms qui étaient là, et pourtant j'estime être pas mal connecté. Mais voilà, moi je suis vraiment complètement du côté consumer, comme on dit dans ce monde-là, du côté utilisateur, consommateur, enfin voilà, grand public. Et là, c'était beaucoup des outils entreprises. C'est normal, c'est ces outils-là qui ont de l'argent. Et en fait, c'est des conférences qui sont un peu étranges. Moi, je ne me sens pas très à l'aise. Tu n'as pas vraiment envie d'aller parler aux gens sur les stands parce que c'est que des commerciaux. Là, de toute façon, il n'y avait aucune marque que je connaissais, donc vraiment, ça ne m'intéressait pas. Qu'est-ce que j'ai reconnu ? Il y avait une personne de Simplon qui avait l'air de s'ennuyer. Il y avait des gens de chez Google, d'IBM, et puis il y avait plein d'autres outils, des startups B2B qui ne sont pas du tout dans mon monde. Donc voilà, donc tout ce monde-là, vraiment, ne m'intéresse pas trop. C'est du networking, mais tu ne sais pas trop dans quel sens. Alors après, je connais un peu l'envers du décor, puisque nous, Contournement, par exemple, on avait un stand au FD Day, et très franchement, c'était intéressant. Mais FD Day, c'était une conférence qui était sympa déjà, parce que le lieu était génial, enfin, voilà. Mais en termes de contenu, ces conférences, en général, c'est assez light. Et là, API Days, c'était un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il y avait quand même du contenu de qualité. Donc c'est principalement des conférences d'une demi-heure, il y a aussi des workshops, il y en a certains même qui sont payants carrément, enfin bref. Après il y a tout un business, c'est des conférences où les billets sont extrêmement chers, et en même temps quand on connaît un peu les coulisses, bah, en fait ils distribuent des billets à tout va, parce que bah, voilà, il y a une espèce de game comme ça, où il faut qu'il y ait du monde, parce qu'il y a des sponsors qui ont payé très cher leur stand. Et donc voilà, mais bon, je ne vais pas trop cracher dans la soupe, j'interviens demain, alors je ne suis pas payé, je fais partie des intervenants... non sponsorisés, on va dire, mais qui ne sont pas non plus payés, ni défrayés, ni rien. Bon, c'est pas grave, j'habite à Paris. Et j'ai accepté parce que, pour deux raisons. D'une part, parce que c'est Benoît de Montclair. Donc, Moi, j'interviens dans la conférence qui s'appelle AI and Visual DFD. Et c'est une conférence qui est proposée, enfin qui est organisée, donc contenu est organisé par Benoît de Montclair, qui fait partie de la communauté NoCode depuis longtemps, voilà, que j'apprécie et dont j'aime bien la vision. Et très franchement, le programme qu'il a fait est top. Vraiment, par rapport aux autres, alors on verra demain la qualité des conférences, mais vraiment, là, je peux pas... on va dire, c'est super, ce qui n'est pas le cas, même sur le papier, juste déjà des conférences que j'ai vues aujourd'hui, je voyais dans le listing. Il y avait des choses, en fait, où je voyais clairement que c'était des conférences sponsorisées, des choses comme ça. Donc voilà, ça, je suis pas fan. Alors, des fois, il y a des conférences de sponsors qui sont très bonnes. Mais voilà. Mais donc ça, c'est ce monde-là, conférences très commerciales. Et j'ai pas fini ma typologie, mais donc il y a de l'autre côté les conférences communautaires, comme la conférence GenAI que j'ai fait à Rennes, la grande journée du no-code, là je vais après-demain à Normandie AI, où c'est des associations qui portent... Et ça, en général, c'est vraiment des super événements. Moi, j'ai adoré GenAI à Rennes, la grande journée du no-code, bon, c'était une masterclass d'organisation, etc. Je l'ai déjà débriefé, je suis sûr, j'ai pas vraiment de doute que Normandie AI va être très cool, mais on verra, je vous dirai. Donc voilà, c'est vraiment deux extrêmes, et c'est quand même très très différent. Mais voilà, quelque part, API Days est un peu entre les deux, parce qu'il y a quand même du contenu de qualité dans certaines de ces confs. Et donc moi, dans ce que j'ai vu aujourd'hui, alors un truc qui m'a un peu, je dois dire, je sais pas si Benoît écoutera ce message, mais n'hésite pas à m'écrire, un truc qui m'a un peu... je suis pas très fan de API Days quand même, c'est l'organisation est pas géniale. Et c'est pas, je dis pas ça du tout par rapport à Benoît, parce que moi, pour mon intervention, tout s'est bien passé et tout, mais là, j'étais... Alors déjà, bon, il y a un des speakers qui est arrivé super en retard, il n'arrivait pas à brancher son ordi. Ça, c'est un truc qui m'étonne un peu, parce que du coup, j'ai quand même organisé pas mal de conférences. C'est que... Alors, c'est aussi parce qu'il y a des démos. Donc, je comprends que les speakers doivent ou peuvent ramener leur ordi. Par exemple, Benoît, il m'a dit, je peux mettre mon ordi et vous m'envoyez votre presse et c'est tout. Mais je veux dire, moi, toutes les conférences que j'ai organisées, on demandait toujours aux gens d'organiser, enfin d'envoyer les slides une semaine avant, au minimum, voire plus longtemps avant, pour pouvoir les vérifier que ça. Et comme ça, le speaker, il arrive, il n'a rien à faire, il monte sur scène, il a son clicker et puis c'est tout. Donc bon, alors là, c'est une conférence tech, ça existe, c'est vrai, dans la conférence tech, on propose au speaker de mettre leur ordi parce que comme ça, ils peuvent faire des démos, ils ont leur environnement et tout. Bon, mais là, il y avait un truc où il y avait une télé sur deux qui marchait, à chaque fois, ils n'arrivaient pas à se connecter, enfin, c'était quand même, je trouvais un peu moyen. Alors j'avoue, maintenant, j'ai un œil comme ça, un peu critique, parce que j'ai organisé des conférences, j'interviens et tout, mais bon, ça s'organise, ces choses-là, quoi. Puis c'est des conférences, on a l'impression quand même que toute l'orga, quand même beaucoup de l'orga est mise dans la recherche de sponsors et tout. Bon, voilà, je suis un peu critique, mais laissez-moi revenir sur le... Mais c'est vraiment parce que, en fait, j'ai vu la différence par rapport aux choses auxquelles j'ai participé, comme la No-Code Week, mais même, je prends GenAI, voilà, j'ai rien à voir là-dedans. On voyait qu'il y avait de la passion, qu'il y avait de l'amour, tout était bien organisé, enfin... Donc voilà, on verra, peut-être que je suis un peu dans une illusion, on verra les prochaines conférences où j'interviens, mais voilà, c'est un truc que je voulais, voilà. Bref. J'en reviens au contenu. Une première conférence sur... Je suis allé voir sur tout ce qui était un peu lié au vibe coding et au code généré par IA et toutes ces choses-là. Première conférence, pas terrible, le gars arrive en retard, donc il a dû aller vite. Il faisait une comparaison, en fait, entre le code assisté par IA et la voiture autonome. C'est de faire un petit état des lieux où on en est, bon, pas incroyable. Ensuite, j'ai vu une conférence des gens de la SNCF. Forcément, moi, j'adore le train, donc j'ai vu SNCF, j'y suis allé. C'était le département de l'innovation de la SNCF. Alors, c'est dommage, les conférences ne sont pas enregistrées. Ça, c'est aussi un truc qui est toujours dommage, mais bon, ça, c'est on sait que ça coûte cher et que c'est difficile à organiser les captations, surtout que là, il doit y avoir en parallèle 7 ou 8 conférences à chaque fois. Donc, il y a beaucoup de salles, il y a beaucoup de trucs. Ce qui est peut-être dommage, d'ailleurs, et peut-être ça pourrait en avoir un peu moins et plus de qualité, mais bon, bref. Et donc là, c'était intéressant, c'était le département de l'innovation qui expliquait comment ils avaient intégré du vibe coding, hein, tout simplement, pour pouvoir développer des produits et tout. Et c'était intéressant, il y avait des choses qui étaient un peu étonnantes, notamment ils expliquaient comment, déjà leur objectif c'était de pouvoir intégrer du vibe coding sans avoir forcément de développeur en interne et sans avoir à passer par des prestataires externes. Bon, ok, pourquoi pas, mais c'était vraiment le côté très financier là-dedans qui était... On va dire, bon, bah, recruter des développeurs, c'est bien aussi, quoi. Pas des développeurs boostés à l'IA, mais donc, c'était Voilà, là, c'était plus une approche. Bon, voilà, on n'est pas technique. Voilà, donc on a un product owner, un lead AI qui fait les trucs. Et notamment, ils donnaient l'exemple d'une application qu'ils avaient fait pour le Vision Pro. Donc, une application de réalité mixte, réalité augmentée, donc qui est effectivement du développement assez complexe à faire. Et donc, en fait, ils expliquaient comment ils avaient fait ça avec... En fait, ils ont payé une agence pour faire le produit de base et ensuite, ils le maintiennent eux-mêmes avec avec du vibe coding. Et alors, très franchement... ce qui était dommage un peu dans cette présentation, franchement, c'était intéressant. Alors... sans vouloir trop charrier, par contre, bon, l'accent anglais des Français était un peu dur. Ça, c'est aussi un des problèmes aussi. J'ai un peu un problème, je parle pas parfaitement anglais, mais bon. Mais j'ai un peu un problème avec les accents et les... Et en fait, ça m'énerve de voir en France des conférences en France, enfin, des Français qui interviennent dans des conférences en France en anglais. Alors, je comprends que c'est des conférences internationales et tout, hein, mais... C'est un peu dommage parce que bah, malheureusement, on n'est pas très bon en anglais en général. Donc là, le mec, il avait vraiment un accent. Après, il était à l'aise, c'était fluide, mais il avait un accent vraiment français très, très fort. Mais bref, pardon, ça, c'est une petite anecdote, un petit peu, enfin, une petite parenthèse je ne vais pas être trop arrogant en disant ça, mais moi, ça me fait un peu bizarre. Mais bon. Et en plus, ils allaient vite et survolaient un peu les sujets. Mais c'était quand même intéressant d'avoir ce petit. C'est des conférences de 20 minutes, hein, donc forcément. Mais sur ce point-là, de faire développer une application donc native, réalité mixte, pour un casque de vision, et ensuite de le maintenir en vibe coding, très franchement, j'ai des gros doutes, quoi. Enfin, alors, ils avaient l'air de dire que ça marchait, mais dans le temps, vraiment, enfin, déjà, je suis le premier à dire qu'il y a vraiment des très grosses limites au vibe coding. Et c'est eux-mêmes qui employaient ce mot de vibe coding. Hein. Le gars, il n'arrêtait pas de répéter qu'il n'était pas développeur. Et que c'est lui, maintenant, qui maintenait cette application qui était fait en langage natif iOS. Et notamment, il disait, c'est vrai que c'est super maintenant pour nous, pour un département de l'innovation, dès qu'il y a des nouvelles technos qui sortent, on peut les tester vite, on prend Cursor, on lui donne la doc de la nouvelle techno, et puis on peut générer des trucs. J'ai quand même des gros doutes, alors pour faire des petits POC, des trucs... Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, je veux dire, j'ai mes doutes, en même temps, il n'y a pas de raison de ne pas les croire. Ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas dans une opération de communication, je sentais de la passion et de l'envie et tout ça dans ce qu'ils disaient, donc franchement, ça, c'était intéressant. Je regrette qu'il n'y ait pas un replay, j'aurais bien voulu revoir un peu plus pour, un petit peu, mais bon, c'était franchement intéressant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une sur la sécurité de l'IA qui était très bien, c'est des sujets que je connais parce que je vais souvent à des... conférence sur la sécurité, donc la sécurité des LLM. Mais c'était bien, c'était très synthétique, c'était un petit état des lieux, c'était très bien. Ça allait au-delà des injections de prompt, des choses comme ça, un peu triviales, mais pas beaucoup plus loin. Mais ça parlait quand même de choses, donc ça, c'était chouette. J'en ai vu une autre que j'oublie. J'ai vu une sur... celle qui m'a le plus plu, et je vais vous partager ça très mal, mais je vais quand même vous le partager, vous irez creuser par vous-même. C'était, en fait... En fait, le titre était un peu bizarre, mais en gros, c'était différentes manières d'utiliser des LLM, autres que juste utiliser les services cloud que l'on utilise habituellement. Donc, à savoir, vous mettez votre clé d'API, et puis vous appelez l'API, vous demandez à l'API ChatGPT, vas-y, fais-moi ça, puis vous utilisez ça. Donc, en fait, ils donnent d'autres choses, donc notamment l'hébergement de modèles sur des serveurs, en utilisant des choses comme Ollama, etc., ce sont des choses un peu techniques qui nécessitent quand même d'avoir des gros serveurs, des infrastructures qui sont assez compliquées à opérer, donc il faut être sûr de savoir pourquoi le faire. Mais justement, c'était intéressant parce qu'il mettait en perspective tout ça. Et il y a un truc qui montrait, et je ne savais pas qu'on en était là, c'est en fait l'utilisation de LLM dans le navigateur. Quand je dis dans le navigateur, je vais essayer de... Vous le savez, en fait, les LLM, donc les grands modèles de langage, mais ça, c'était pas, d'ailleurs, ça ne parlait pas que des LLM. Justement, c'est ça où il faut faire attention. Il ne faut pas que parler des LLM. Il n'y a pas que les LLM dans l'IA. Mais donc, on parle de modèles d'IA. Donc, des modèles d'IA, vous le savez, donc il y a deux phases. Hein. Modèle d'IA, il y a la phase d'apprentissage, la phase d'entraînement. Ça, c'est quand on crée, en quelque sorte, le modèle. Donc, c'est l'entraînement de ChatGPT, par exemple, sur des énormes serveurs pendant des mois et des mois. Et ensuite, on a quelque chose qui sort, qui est un peu une espèce de boîte noire avec des poids, machin. Et ensuite, quand on appelle ce LLM, quand on l'exécute, en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle l'inférence. Et donc, l'inférence, quand vous faites un appel d'API à OpenAI sur le modèle GPT-5, par exemple, eh bien l'inférence va se passer sur les serveurs d'OpenAI. Mais vous avez des modèles open source, donc vous pouvez avoir l'inférence sur les serveurs de Meta, par exemple, mais vous pouvez prendre un modèle de Meta open source, faire l'inférence sur un ordinateur que vous avez chez vous ou sur un serveur tierce. Et en fait, maintenant, apparemment, ce qu'il est possible, pour des petits modèles, notamment, pas des gros modèles, mais des petits modèles, des modèles de computer vision, des modèles de traduction, des modèles de résumé, des modèles, peut-être des petits modèles de langage, des SLM, eh bien, on peut faire cette inférence dans le navigateur. Et en fait, là, le navigateur donc, va jouer le rôle de moteur d'inférence en sollicitant les compétences, enfin les ressources de votre ordinateur sur vous, donc côté client, comme on dit. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Apparemment, c'est une norme qui est en train d'être... Il y a des pilotes donc, au niveau de la W3C, qui est l'organisme, le consortium, qui gère ce genre de choses, donc... au niveau notamment du fonctionnement des navigateurs, la standardisation des fonctionnalités des navigateurs, en gros, pour le résumer hein, comme ça. J'ai oublié comment ça s'appelle, déjà. C'est le web, AI, standard, un truc comme ça. Enfin, j'ai oublié. Et franchement, c'est hyper intéressant. Et ça existe déjà. C'est disponible dans Chrome, en mode développeur. Et ça le sera peut-être bientôt dans tous les navigateurs. Et en fait, c'est hyper intéressant. Il a fait une démo. Et donc, notamment, par exemple, pour de la traduction. Imaginez pas ChatGPT, c'est pas ça le sujet. Mais imaginez de la traduction, par exemple. La traduction, ça fait longtemps qu'on sait en faire. C'est des modèles d'IA qui marchent bien et qui sont des modèles d'IA qui ne sont pas forcément et qui n'ont pas forcément besoin d'énormément de ressources. Eh bien, on pourrait imaginer que pour faire de la traduction, vous n'ayez plus besoin d'aller sur Google Translate, mais que vous puissiez avoir la traduction qui se passe en live dans votre navigateur. Et donc, vous avez différents bénéfices à ça, notamment vos données ne sortent plus. Et ça veut dire aussi que vous pourriez, si vous êtes développeur web, vous pourriez faire des applications qui utilisent ces informations. C'est-à-dire, imaginons, moi, je veux faire une petite application que je vais mettre à disposition de personnes, et à l'intérieur de cette application, je veux qu'il y ait un petit moteur de traduction, eh bien, je peux le mettre en place, je n'ai pas à coder ce moteur de traduction. Je peux utiliser l'API interne du navigateur et dire, mettre du code JavaScript qui va traduire, qui va utiliser ce moteur de traduction dans le cadre de ce que moi je veux faire sur mon site ou mon appli. Bon, c'est un petit peu méta, c'est peut-être pas évident à comprendre, mais c'est vraiment du même ordre. Imaginez, par exemple, vous pouvez faire des PWA, vous pouvez faire des petites applications mobiles dans le navigateur qui utilisent le Bluetooth, par exemple. C'est un composant du téléphone. Vous, votre application, vous dites juste on va utiliser le Bluetooth, et ça utilise le Bluetooth du téléphone, par exemple, ou le GPS, ou des choses comme ça. Vous voyez, ça sollicite des ressources locales du navigateur, du device qui exécute l'application que vous avez fait. Mais vous n'y avez pas accès, vous, directement. Vous n'avez aucune idée de là où se trouve votre utilisateur, ça s'exécute sur son ordinateur. Et donc, de la même manière, on pourrait avoir des fonctionnalités d'IA qui seraient disponibles, et il peut y avoir des choses vraiment très intéressantes. Donc, c'est pas pour des LLM, mais des plus petits modèles. Et je vais reboucler et finir un peu là-dessus, parce que c'est un sujet, ça c'est un signal pas vraiment faible, c'est un signal fort de ce qui arrive, auquel moi je crois beaucoup, et je suis pas du tout à l'origine de cette idée, hein. C'est que l'avenir, j'en ai parlé récemment avec la stratégie de Mistral notamment, l'avenir se passe dans les petits modèles spécialisés d'IA. Les LLM, c'est trop générique, en fait. C'est trop générique, ça demande trop de ressources, ça n'a pas vraiment de sens, à mon avis. C'est important, c'est ce qui nous a permis de passer une étape, et dans certains contextes, il peut y avoir besoin de choses un petit peu généralistes, mais en fait, par exemple, je prends un exemple, très franchement, on est beaucoup à utiliser des LLM, donc des gros modèles de langage très puissants, très lourds, pour faire des simples résumés. Et bien maintenant, il y a des modèles d'IA de résumés, qui ne font que ça, qui ne savent faire que ça. Vous ne pouvez pas leur demander de faire une traduction, vous pouvez leur demander, vous leur envoyez un texte, ils vont systématiquement vous faire un résumé. Ça, c'est des petits modèles qui vont consommer moins de ressources, et ça, c'est important, qui vont pouvoir s'exécuter sur nos devices directement, et donc vous n'aurez plus à envoyer vos informations à OpenAI, où vous ne savez pas trop ce qui se passe derrière, et vous pouvez faire ça en local. Et moi, je crois vraiment à ça, notamment pour des questions de ressources, mais ça paraît beaucoup plus efficient, en fait. On ne peut pas, ces modèles, ces énormes modèles, ils sont trop gros, ils consomment trop de ressources par rapport à ce qu'on leur demande de faire dans 80% des cas. Donc voilà, ça c'est encore c'est un signal qui va encore dans, dans ce sens qui me paraît vraiment très intéressant. Alors évidemment, ça nécessite quand même des ressources sur le device client, mais si c'est un petit modèle, vous avez besoin de moins de ressources, vous n'avez pas besoin d'un GPU ultra puissant. Peut-être que si vous avez un ordi juste un petit peu correct, eh bien vous pourrez faire tourner localement des modèles comme ça facilement de résumés, de traductions, des choses comme ça, et aussi que ce sera utilisable par dans le cadre d'applications et tout quoi. Bref, je m'arrête là. J'ai vu une dernière conférence qui m'a pas du tout plu. Sur le papier, elle aurait dû me plaire, mais en fait, j'ai pas du tout aimé surtout la conclusion de la personne qui m'a trigger. En fait, c'est un gars qui a vibe codé un jeu. Jusqu'ici tout va bien, pourquoi pas. Il a vibe codé un espèce de Street Fighter ultra personnalisable où en fait vous dites le personnage que vous voulez, puis ça fait. Alors le Street Fighter en lui-même est complètement nul, mais c'était un peu impressionnant techniquement. Mais en fait, le gars, il est parti dans une espèce de truc à la fin où franchement, il s'est perdu, à mon sens. Enfin, c'était vraiment grave, limite. Où en fait, il disait que maintenant, tout le monde pouvait faire de l'art grâce à ses outils d'IA générative. Tout le monde pouvait faire des trucs hyper personnalisés et tout. Et j'étais là, mais franchement, non, en fait, c'est pas vrai. C'est pas souhaitable. C'est catastrophique de dire des choses comme ça. Et je veux dire, je suis très intéressé. Je commence à avoir de plus en plus de remises en question par rapport à l'IA. Mais notamment sur la création artistique, quoi. Franchement, lui, il était à fond, créer de la musique et tout. Mais je veux dire, mais arrêtez, quoi. Je veux dire, franchement, on n'a pas besoin de musique créée par IA. Je veux dire, est-ce qu'on a besoin de musique? Je ne sais pas. En tout cas, on a besoin de musique qui est faite par des humains qui ont mis des émotions dedans, qui ont mis de l'amour. Et c'est pareil pour les illustrations, c'est pareil pour tout ça. Alors, quand je parle de musique, je parle de musique vraiment qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Je ne parle pas forcément de « Ok, créer un jingle pour un podcast parce que vous n'avez pas les moyens de payer un musicien. » Pourquoi pas faire un petit jingle avec une IA? Pourquoi pas? Ça, c'est un usage plus utilitaire. Ce n'est pas un usage artistique. Les usages artistiques dans l'art, et franchement, c'est dommage, il n'y a pas de replay parce que franchement, j'aurais bien voulu... mais ce qu'il disait, c'était terrible, quoi. Enfin, déjà, il confondait art et création artistique. Enfin, c'est-à-dire, il y avait un mélange vraiment, mais qui était complètement... Alors, c'était un consultant de je ne sais plus quelle boîte, Wavestone, je ne sais quoi, qui franchement, de toute façon, enfin, je veux dire, mais pourquoi tu parles de ça, tu vois, c'est pas... Enfin, c'était vraiment ça m'a beaucoup déplu et je ne suis pas fondamentalement opposé. En plus, dès le début, il dit, ouais, il n'y a pas vraiment de truc de problème, de comment dire, de droit, c'est quoi l'expression, enfin de copyright, de choses comme ça. Je veux dire, il y a énormément de problèmes par rapport à tout ça. C'est très problématique de créer de la musique et tout en mettant ça de côté, quoi. Enfin, franchement, enfin bref, ça m'a un peu trigger. D'ailleurs, juste là d'en reparler, ça me trigger un peu. Mais voilà. Mais c'est bien parce que je commence vraiment à aussi avoir une position un peu plus affirmée, je pense, sur ma vision, les usages de l'IA. Et qui, à mon sens, doivent être vraiment le plus limité possible, pour deux raisons, je vais conclure là-dessus. C'est que, un, si on utilise l'IA à tout bout de champ, déjà, ça consomme des ressources, et c'est un problème. Et en plus, si on l'utilise à tout bout de champ, en fait, on va tous devenir complètement cons. Vraiment, c'est un peu un des problèmes de ce genre de grandes conférences sur l'IA et tout, c'est qu'il y a quand même beaucoup de bullshit et de choses qu'on essaye de nous vendre qui, moi, me pose problème, et c'est pour ça que je vais plus arrêter de ne jamais dissocier pourquoi faire les choses. C'est-à-dire, on fait du vibe coding, pourquoi on en fait? Et c'était aussi le sujet de l'article que j'ai publié aujourd'hui. En fait, c'était un petit état de où on en est, qu'est-ce qu'on peut faire en vibe coding et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Mais la première chose, c'est la philosophie, c'est pourquoi est-ce qu'on ferait des choses? Et je le répète encore une fois, si on fait du vibe coding pour devenir riche, pour lancer des startups et gagner des millions, et sans résoudre de problèmes intéressants, gagner des millions en résolvant un vrai problème de société, pourquoi pas? Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que c'est pas si fréquent que ça, mais par contre, utiliser du vibe coding pour résoudre des vrais problèmes que vous avez, que vous avez avec des gens autres, ça, je pense que ça peut avoir du sens. Ça n'empêche pas qu'il faut aussi essayer d'être frugal et efficient dans son approche, mais voilà, par contre, faire des images Studio Ghibli et des trucs comme ça, non, en fait, franchement, juste, on n'a pas besoin de ça. Vraiment, et je pense que c'est important de le répéter. Bref, j'espère que ça vous parlera ou pas. On en parlera de toute façon très bientôt. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Allez, salut.